Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 13 juillet, le vaccin, plus que jamais, les prises de rendez-vous explosent, plus de 4000 par minute. Emmanuel Macron a donc pris l'option passe-partout. Le pass sanitaire sera étendu progressivement à partir du 21 juillet aux lieux de loisirs, puis aux bars, restaurants, aux transports. La vaccination sera obligatoire pour les soignants avec des sanctions à partir du 15 septembre. Suspension du contrat de travail avant une mise à pied, voire un licenciement. Les détails, le calendrier dans ce journal. Comment concilier les libertés individuelles et la protection de tous ? Comment les EHPAD vont-ils réagir ? La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, est l'invitée de ce journal. Elle veut aussi réformer de fond en comble les maisons de retraite médicalisées. Elle nous expliquera pourquoi elles sont devenues des repoussoirs. Dans RTL Midi aussi, le Tour de France. RTL chez vous en Andorre au départ de la 16e étape. La deuxième dans les Pyrénées. La météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
On avance à reculons.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Aucune amélioration en vue pour cet après-midi. Il reste trois départements en vigilance orange pluie inondation. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le territoire de Belfort. Cet après-midi, attention aux fortes pluies, parfois orageuses, entre les frontières du Nord, en passant par la région parisienne, le centre, en allant vers le sud-ouest. Entre les Pyrénées et le centre-est, là, le temps reste bien gris avec quelques averses. Et pour vous dire à quel point ça s'est rafraîchi, il y aura même quelques flocons. C'est vous dire au-dessus de 2400 mètres sur les Pyrénées et les Alpes, mais aussi quelques zones sèches, très peu, près de la Méditerranée au prix d'un vent fort et entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Les températures, donc fraîches, globalement comprises entre 14 et 22 degrés et jusqu'à 30 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. Soutenez-vous les mesures annoncées par Emmanuel Macron ? Vous dites oui à 41%, il y a 56% de non. J'attends vos appels, bien sûr, au 3210, que vous soyez soignant, restaurateur, parent d'adolescents ou simple citoyen. Dites-nous ce que vous pensez de ce tour de vis sanitaire. Nous dialoguerons ensemble à partir de 13h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Les créneaux de vaccination pris d'assaut depuis hier soir. Plus d'1 300 000 prises de rendez-vous, affirme Doctolib. Plus de 4000 par minute ce matin. Les 22 400 000 téléspectateurs qui ont suivi Emmanuel Macron hier soir ont compris le message. La vaccination est une obligation qui ne dit pas son nom, sauf pour les soignants. 40% des Français sont complètement vaccinés. Il faut aller plus vite face au variant Delta, quitte à contraindre. À partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs, puis aux bars, restaurants et au transport début août. Ça signifie qu'il faudra avoir été vacciné, avoir été infecté par le Covid ou présenter à chaque fois un test PCR négatif. Alors, partons au vaccinodrome de Grenoble, à Alpes Expo. Qu'en disent les primo-vaccinés ce matin, Serge Puyot ?
À l'entrée du vaccinodrome, Hassen, chargé de la sécurité, doit faire face à une affluence inhabituelle. Beaucoup de personnes arrivent sans rendez-vous.
Ah oui, oui, bah là, on l'a vu depuis ce matin, hein, par rapport au pass sanitaire. Maintenant, il y a des obligations, donc on les voit tous arriver aujourd'hui. C'est flagrant, hein.
Héloïse a réussi à rentrer.
J'ai pas pris de rendez-vous, je suis venue sans rendez-vous ce matin.
C'est une chance ?
Oui.
C'est quoi que vous avez décidé ?
Notre cher président Macron, pour pouvoir être libre pendant mes vacances.
Et pour le pass sanitaire, il faudra attendre.
C'est ça, mais les vacances, c'est dans 3 semaines pour moi, donc...
C'est pas encore gagné ?
Non, on verra bien.
Sullivan, 18 ans, arrive lui aussi pour recevoir sa première dose.
J'ai réservé hier soir quand j'ai regardé ce que le président avait dit.
Pour le pass sanitaire, il va falloir attendre encore la deuxième dose.
Ouais, entre 3 et 7 semaines, ce qu'elle m'a dit la dame là.
Et en attendant, il y aura des restrictions pour vous.
Oui, il y aura pas aller au bar, pas aller au cinéma. Ça va faire un peu bouser mes vacances scolaires.
Vacances studieuses.
Ah bah là, je suis sûr que les vacances vont être très très studieuses.
C'est un peu rageant.
Bah en étant étudiant un peu.
Le vaccinodrome de Grenoble pourra vacciner 4000 personnes dans la journée.
Reportage Serge Puyot. Alors on vient d'entendre ces primo-vaccinés. Faisons le point avec vous Sophie Jousselin. Ils vont devoir tout de même se soumettre à des tests PCR.
Oui, parce que leur vaccination ne sera jamais complète avant que l'élargissement du pass sanitaire entre en vigueur. Il suffit de prendre une calculette. Il faut au minimum 3 semaines entre les 2 doses, plus 2 semaines après la seconde dose pour être totalement vacciné. Donc pour les personnes qu'on vient d'entendre, nous sommes le 13 juillet, leur vaccination sera complète au mieux après le 17 août. Et avec l'affluence, les délais pour obtenir son premier rendez-vous vont certainement s'allonger, alors qu'il est dans certains centres, il faut attendre une dizaine de jours, voire plus. Donc le test PCR a de beaux jours devant lui, puisqu'il va devenir obligatoire pour pratiquement toutes les activités de la vie quotidienne, pour aller au cinéma par exemple, dans un restaurant, ou bien pour prendre le train.
Oui, il ne sera plus remboursé, sauf sur prescription médicale.
À partir de l'automne.
Oui. Ouais. Pas de vaccin, pas de salaire pour les soignants à partir du 15 septembre. Ça concerne tous ceux qui travaillent au contact des personnes fragiles. Alors, qu'en disent-ils ? Écoutez, Laura, elle a 39 ans. Elle travaille en réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille.
J'ai eu ma première dose en janvier, ma deuxième dose en février. Après, je suis en réa Covid. Et donc, c'est une décision que j'ai faite personnellement pour moi. Et je l'ai faite aussi pour la collectivité, parce qu'il faut faire les choses pour aussi les autres, malheureusement. Surtout quand eux, ils veulent pas se protéger.
Un petit bémol ?
Bah, éthiquement, c'est vraiment dommage. C'est difficile d'entendre que certains sont menacés, pas payés, suspendus, etc. Surtout que, encore une fois, c'est sur ceux qui sont vaccinés que ça va retomber, parce que si jamais il y manque du personnel, on va nous demander de venir en plus. Mais bon, quand on est auprès des patients fragiles, la vaccination, elle est obligatoire, ou alors il faut faire un autre métier, en fait.
À l'inverse, Virginie, 59 ans, infirmière à l'hôpital, s'interroge.
Je respecte tout à fait la vaccination. Même, je suis vaccinée de tous les vaccins obligatoires. Par contre, celui du Covid, j'avoue que t'as pas de retour d'expérience. Et puis, on nous le balance comme ça, aussi vite. Ça m'intrigue quand même et ça me fait peur. Et on n'a pas à nous obliger à faire comme ça. Il faut le faire. On nous montre du doigt si vous le faites pas. Vous êtes des mauvais soignants. Vous êtes... C'est impensable, quoi, qu'on nous parle comme ça. Alors que moi, ça fait 40 ans que je travaille, quoi. Mais quelle dictature!
Qu'est-ce que vous allez faire, vous?
Je sais pas, j'hésite. Est-ce que le 15 septembre, je vais aller travailler? Je sais pas. Peut-être que je vais anticiper ma retraite. Je vais partir faire autre chose, j'en sais rien. Mais je suis pas sûre d'aller travailler sous la contrainte comme ça. Voilà.
Des témoignages recueillis par Étienne Baudieu à Marseille. Sophie Jousselin, vous êtes toujours avec nous. En réalité, 70 professions sont concernées.
Oui, ça concerne au total 1,5 million de personnes. Tous les soignants qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les EHPAD, les centres médicaux, mais aussi les personnels non soignants de ces établissements, comme par exemple les brancardiers, les femmes de ménage, pompiers et ambulanciers sont aussi concernés. Il faut ajouter à cette liste les salariés ou bénévoles qui s'occupent de personnes âgées ou fragiles, par exemple les aide à domicile. Donc tout ce petit monde devra être complètement vacciné le 15 septembre, date à laquelle il pourrait y avoir des contrôles et des sanctions.
Et j'ajoute que beaucoup de parents se posent aussi des questions pour leurs adolescents. Le pass sanitaire sera demandé dès l'âge de 12 ans. Or, ils sont peu nombreux encore à avoir été vaccinés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, demande de la souplesse et de la compréhension pour les ados. Et il faut créer des lois sur mesure en urgence à la fois sur l'extension du pass sanitaire et sur la vaccination obligatoire des soignants. Elles doivent être adoptées au prochain Conseil des ministres pour se retrouver au plus vite devant le Parlement, c'est-à-dire à partir du 21 juillet. Mais est-on certain qu'elles vont être adoptées, Jacques Serret ?
Oui, il y aura une majorité pour la voter, promet La République En Marche. Mais majorité, ça ne veut pas dire unanimité. Et pour cause, il y a à peine 2 mois, au moment de voter le premier texte sur le pass sanitaire, En Marche promettait que jamais ce pass ne serait obligatoire pour aller au restaurant ou au cinéma.
Je crois qu'il est vraiment important de l'inscrire clairement dans la loi pour que chaque citoyen de notre pays puisse l'opposer à toute personne privée qui pourrait avoir cette idée saugrenue d'imposer de pénétrer dans son établissement à la possession d'un tel pass sanitaire.
Vous venez d'écouter la députée LREM Yael Braun-Pivet, c'était le 11 mai dernier. Cette promesse s'apprête donc à être balayée et certains élus le vivent comme un reniement. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron les a tous invités à l'Élysée hier soir pour remobiliser les troupes, pour qu'elles fassent bloc derrière sa décision. Parce que les débats fin juillet au Parlement s'annoncent houleux, le Rassemblement National et la France Insoumise dénoncent déjà un recul des libertés et un abus de pouvoir d'Emmanuel Macron.
Quant à l'état d'urgence, il sera prolongé jusqu'au 31 décembre, mais d'après nos informations RTL, le gouvernement devra rendre compte chaque mois devant l'Assemblée et le Sénat de l'état de l'épidémie et des mesures prises. Les restaurateurs, patrons de salles de cinéma ou de salles de sport sont inquiets d'une baisse significative de leur clientèle et de la contrainte qui consiste à obliger leurs salariés à être vaccinés. Même chose du côté des centres commerciaux, car ces restrictions entreront en vigueur dès le début du mois d'août. Écoutez Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux.
Cette nouvelle était une surprise pour nous, puisque malheureusement on regrette qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable. 15 jours pour mettre en place cette mesure, c'est pratiquement impossible pour les 850 centres commerciaux que compte la France. On trouve que les centres commerciaux, à travers cette mesure, sont à nouveau stigmatisés et discriminés par rapport aux autres formes de commerce qui n'auront pas cette mesure qui leur est imposée. Et puis, bien entendu, c'est une mesure qui a des conséquences économiques très, très lourdes pour les propriétaires et les gestionnaires des centres commerciaux. On a fait un rapide calcul. Ça nécessiterait d'embaucher près de 8 000 agents de sécurité en 15 jours. Et le coût de cette embauche représenterait à peu près une centaine de millions par mois. Dans l'État, c'est une mesure qui est problématique pour la filière.
Gontran Turing avec Nerissa Emani. Pour compléter cette incitation, on le redit, les tests PCR ne seront plus remboursés à partir du mois d'octobre, sauf prescription médicale. Une pause dans un instant. L'invité d'RTL Midi, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, qui veut revoir le modèle des EHPAD.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Dans les EHPAD, les soignants et le personnel devront être vaccinés à partir du 15 septembre. Les non-vaccinés ne pourront plus travailler, ne seront plus payés, a expliqué Olivier Véran. Brigitte Bourguignon est l'invitée d'RTL Midi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre déléguée chargée de l'autonomie. Il fallait vraiment en arriver là ?
Alors, moi, je pense que avant d'être à l'obligation vaccinale, qui n'interviendra qu'au 15 septembre, on est encore dans la concertation et dans la sensibilisation, et c'est une obligation plus morale pour moi qu'une obligation vaccinale. Une obligation morale, parce que, vous le savez, c'est un public particulièrement fragile, vulnérable, que nous avons choisi sciemment de vacciner en premier, et on ne pourrait pas comprendre aujourd'hui que les personnes qui les entourent, qui les accompagnent, ne soient pas elles-mêmes prémunies du vaccin, prémunies du virus, avec le vaccin qui est la seule arme dont nous disposons.
Mais vous entendez les soignants qui dénoncent une mesure liberticide ?
Alors, je ne peux pas entendre ça, parce que d'abord, il y a déjà des vaccinations obligatoires. Et donc, ces soignants sont déjà vaccinés de manière obligatoire, oui, sur quatre vaccins obligatoires. On en rajoute un qui est primordial dans cette lutte contre le virus. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler d'absence de liberté, puisque cela fait des mois. Ensuite, je voudrais dire que toutes les fédérations employeurs de ces personnes sont d'accord, et unanimement d'accord derrière nous, pour demander à ce que nous passions à l'obligation, parce qu'elles n'ont de cesse que de recruter et d'avoir des personnes qui sécurisent les résidents. Puis vous savez, les sanctions, elles vont pas venir de la loi seulement, elles vont venir du système. C'est-à-dire que les familles ne voudront plus, à terme, mettre leurs personnes âgées dans ces établissements si elles ne sont pas suffisamment prémunies contre le vaccin. Idem pour le domicile, nous avons déjà des plaintes contre des associations. Donc vous voyez, ça va se faire naturellement presque.
Mais ça risque quand même de poser un problème, puisque les EHPAD manquent cruellement de personnel soignant. Est-ce que vous ne craignez pas que certains choisissent de partir, ce qui pourrait susciter un problème d'effectifs assez intenable ?
Moi, je crois à la responsabilité de chacun des personnels. Je pense que certains ont attendu le maximum pour se faire vacciner, certains demandaient à avoir plus de recul, certains, pour des commodités personnelles même, quelquefois, ont attendu. Je crois qu'il va y avoir un rebond, et je crois que ça va bien augmenter prochainement, et peut-être qu'au 15 septembre, ce sera très marginal, finalement. Et je n'imagine pas une hémorragie dans ces établissements.
D'accord. Alors, parlons des EHPAD en général, ces établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, c'est ce que signifie le mot EHPAD, on l'a oublié. Ils ont été créés en 1997. Le modèle est à bout de souffle aujourd'hui ?
Alors, je crois que le modèle est à bout de souffle, il ne correspond plus en tout cas à ce que souhaitent les Français. Les Français aspirent d'abord et avant tout à vivre à domicile, quelle que soit d'ailleurs la forme du domicile. Donc on demande aux EHPAD même d'effectuer cette mue qui se tourne vers le domicile aussi, c'est-à-dire que ce sont des établissements résidentiels avant tout, et nous devons les sécuriser davantage. C'est ce que nous allons mettre sur la table. Il y a un grand plan d'investissement prévu avec le plan de relance, avec le Ségur. Vous le savez, il y a 2,1 milliards qui sont là pour rénover. Mais rénover pour rénover n'a pas de sens. Puisque quand vous discutez aujourd'hui, aussi bien que le personnel qu'avec les familles, ce qu'on souhaite de ces établissements, certes qu'ils soient mieux médicalisés, mais qu'ils soient vivant, qu'il y ait de la vie jusqu'au bout.
Ce ne sont plus des lieux de vie aujourd'hui.
Nous voulons recréer des lieux de vie.
Comment allez-vous recréer ce lieu de vie et cette mixité ?
Oui. Alors, ce qu'on veut, c'est que dès lors qu'ils sont sécurisés, d'un point de vue sanitaire, nous voulons qu'il y ait des tiers-lieux qui s'installent, et ça se fait par endroit. Il y a même de l'intergénérationnel qui se fait par endroit dans les établissements. C'est très intéressant, ça devient un peu sur tout le territoire national des initiatives qui sont prises et qui serviront d'école un peu pour les autres. Donc nous souhaitons, à ce moment historique, qui est un tournant quand même dans ces changements d'établissement, nous voulons aussi créer l'envie d'avoir du beau, d'avoir de la vie et d'avoir du droit respecté aussi pour les résidents. Tout ça va être sur la table, effectivement.
Et vous souhaitez, pour finir, qu'il change de nom ?
Eh bien oui, parce que pour éviter cette connotation qui finalement,
qui est négative
au fil de l'eau, est devenue
clair.
Négative. Voilà. Et alors ? Donc ce sera les citoyens qui vont être appelés un peu à se prononcer, à nous donner des idées. La notion de résidence et de maison me va bien. J'ai vu d'ailleurs que le président de la République a sciemment parlé de maison plutôt que d'EHPAD.
D'accord, donc ça pourrait être maison le nom, mais il y aura une consultation citoyenne.
Il y aura une consultation en fait. Citoyenne, donc je laisse les citoyens inventer le mot qui conviendra, mais bien sûr ça n'aurait de sens et ça ne serait cosmétique que si on ne fait pas bouger le modèle.
Mais oui, sinon, c'est du ripollinage.
Sinon, c'est du ripollinage.
On est bien d'accord. Merci beaucoup, Brigitte Bourguignon, merci. D'avoir été l'invitée de ce journal. L'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022. C'est une information à RTL de Benjamin Sportouche. Les dates devaient être validées en Conseil des ministres ce matin. Une amende de 500 millions d'euros infligée à Google, c'est un record pour l'autorité de la concurrence. Le moteur de recherche n'a pas négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse sur l'application des droits voisins, c'est-à-dire la rémunération des éditeurs pour la reprise de leur contenu. Nous sommes à la veille du défilé du 14 juillet. Cette année, la gendarmerie nationale met à l'honneur ses héros du quotidien. Ils seront 76 à défiler sur les Champs-Élysées. Parmi eux, le maréchal des logis chef Frédéric Domini Serodi du PSIG d'Ambert. Il était intervenu en décembre dernier à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme pour maîtriser un forcené. L'homme avait abattu 3 gendarmes avant de se donner la mort. Vous vous souvenez sans doute de l'émotion nationale que cela avait suscité. Eh bien, il témoigne pour la première fois.
Quand on débarque, on se fait tirer dessus déjà. Donc on essaie déjà de récupérer nos camarades qui sont également sous le feu et on échange des coups de feu donc avec l'auteur. Malheureusement, 2 de mes camarades se font toucher par balle. On s'occupe de riposter également pour pouvoir faire cesser vraiment les tirs. Mais il fait vite nuit, il pleut, il y a du brouillard. Donc on voit juste quand il nous tire dessus, on voit les balles, ça fait une espèce de flamme en fait qui sort du canon. Donc en fait, on le repère à ça essentiellement. Nous, on a secouru rapidement nos camarades. Malheureusement, ceux qui étaient déjà décédés à l'avant, on l'a vu bien plus tard. Mais voilà, les camarades qui se sont fait toucher au moment où on est arrivé, on a pu leur porter secours et les extraire. Malheureusement, Arnaud est décédé, lui, des suites de ses blessures. L'agent-chef qui était avec nous a pris une balle, lui, dans son gilet pare-balles.
Emmanuel Macron, à l'époque, a parlé de vous et vous a qualifié de héros. Vous allez défiler, d'ailleurs, sous ce terme de héros du quotidien. Vous en pensez quoi de ce terme de héros ?
Des héros, on n'en est pas. On est gendarme par vocation. On fait juste notre travail. On essaye de bien le faire. Après, on connaît les risques du métier. C'est une grande fierté pour un militaire de pouvoir défiler au 14 juillet. C'est pas tout le monde. Après, on va penser aux familles, aux camarades disparus. J'ai pensé également à mes enfants, hein, parce que j'ai eu de la chance, moi, de pouvoir les voir tous les soirs. Voilà, on va penser à tout ça, déjà.
Frédéric Domini Serodi qui ne se prend pas pour un héros. Témoignage recueilli par Guillaume Chiez. Un été les pieds dans l'eau. Alors on aime ça à la mer, mais pas ailleurs. En Alsace, le mois de juin était déjà 2 fois plus pluvieux qu'en temps normal et ces 2 derniers jours, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Yannick Collant, vous êtes à Dorlisheim, près de Strasbourg, où un gros maraîcher patauge dans sa récolte de cornichons bio.
Dans ce champ où la terre s'est transformée en gadou, Pierre Maurer avait planté 120 000 pieds de cornichons.
Bah en fait, on a eu 3 fois autant de pluie que dans un mois normal. Vous devriez marcher maintenant avec un seau, là, on écraserait.
Malgré la pluie et la boue, il faut récolter. Les cueilleurs sont suspendus en l'air, accrochés à un tracteur.
C'est récoltable parce qu'on a des engins assez puissants. Sans porte-cueilleur, on ne passait pas. Ils sont suspendus en l'air, ouais. On fait suspendu, ils sont posés sur une plateforme. Sinon, ça marche pas.
Et le risque pour le maraîcher, c'est aussi le mildiou qui peut attaquer les plants de cornichons.
Le cornichon peut disparaître, je dirais, en 4 jours avec la maladie. Si le mildiou attaque, 4 jours après, il n'y a plus rien. Pour l'instant, on le domine avec des sorties, avec la prêle, on le domine avec des algues marines. Ça fait toujours bizarre, mais ça marche. Hein.
Et pour être sûr de pouvoir continuer à récolter, Pierre Maurer prévoit un deuxième tracteur de secours pour dépanner le premier.
Il va venir d'ici 20 minutes, il va venir. Tu vois, il attend que l'autre il se plante.
Qui s'embourbe mais qui ne sort plus.
Ouais, et donc on le tire un peu, puis après ça repart.
Et la pluie qui a également provoqué de gros dégâts dans d'autres champs, 40 000 salades par exemple, ont été perdues dans le champ d'à côté.
Yannick Collant embourbé dans les cornichons en Alsace. RTL chez vous dans un instant. Nous partons à l'autre bout de la France, en Andorre, au départ de la 16e étape dans les Pyrénées, entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens. Christophe Paco à suivre.
RTL Tour de France 2021. RTL chez vous.
Christophe Paco.
Et on vous retrouve, Christophe. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour Christelle, RTL chez vous au Pas de la Case, direction Saint-Gaudens pour un grand toboggan pyrénéen après une journée de repos tant méritée pour les coureurs. Histoire du tour, question du jour, le coup de cœur de Laurent Jalabert, l'œil du Parisien aujourd'hui en France et rencontre, sans plus tarder, avec un ancien grand vainqueur du Tour en 2010, le luxembourgeois Andy Schleck. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Pacaud.
On est là, dans la montagne, dans les Pyrénées, avec Andy Schleck. Bonjour Andy.
Bonjour.
Ambassadeur Skoda, vous roulez comme vous pédaliez, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre les virages dans les montées comme dans les descentes en ce moment.
C'est la même chose, on a que juste maintenant, si on suit les coureurs dans la voiture, on a du frayeur. Et voilà, je me rappelle, c'est pas si longtemps, c'était nous qui étions sur le vélo, roulés. Mais c'est quand même assez impressionnant si on suit, on voit une voiture, un peloton ou une échappée du Tour de France.
En tennis, on parle beaucoup de la next gen, nouvelle génération. Là, on a l'impression que plus on est jeune, maintenant, on peut gagner le tour, alors qu'avant, il fallait un petit peu de bouteille, un peu d'expérience.
Quand moi, je suis tourné professionnel, j'avais 19 ans, mais j'étais vraiment une exception. Aujourd'hui, c'est sorte normal. C'est aussi tout le travail avant qui est beaucoup mieux organisé aujourd'hui. Ce sont des gamins, mais dans les autres sports, ils sont aussi très jeunes.
Hein. Natation, si par exemple.
Par exemple, ce qui est énormément physique, comme le cyclisme aussi. Le sport change tous les jours. Je pense pas qu'ils sont plus forts aujourd'hui qu'un Merckx ou les Contador. Je pense pas qu'ils sont plus forts. Je pense juste que voilà, le niveau en général est plus haut.
Merci à vous. Bonne route sur cette fin de tour. On a encore un petit peu de temps jusqu'à dimanche prochain à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Merci Andy Schleck.
Merci à vous.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
Un coureur français peut-il gagner une étape d'ici dimanche soir? C'est la question du jour. Mourad Djabari est allé à votre rencontre ici à plus de 2000 mètres d'altitude.
Bien sûr qu'un Français peut gagner une étape d'ici les Champs-Élysées. Déjà, aujourd'hui, l'échappée a de fortes chances d'aller jusqu'au bout. Et on a des Français qui sont très offensifs et qui arrivent à les prendre, ces échappées. Donc, il faut y croire. Porte ça à la Francia.
Ah, il faut l'espérer. On a toujours la Philippe. Il reste deux étapes de montagne. Et puis, même si on a perdu notre sprinter, il faut espérer qu'il y ait un baroudeur qui fasse une bonne étape et qu'il puisse partir bien accompagné, quoi. Il faudrait qu'on voit un peu le drapeau tricolore à nouveau avant les Champs-Élysées. Après, sur les Champs-Élysées, là, c'est un peu la loterie.
Et justement, on en parle avec notre spécialiste cyclisme parisien aujourd'hui en France, Christophe Bérard. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Oui, une seule victoire française depuis le début du tour. Guillaume Martin, deuxième à l'instant. Allez, on va en accrocher une rapidement dans les Pyrénées peut-être.
Alors, j'aimerais vous dire oui, mais faut être franc, on est quand même assez déçu par le cyclisme français. Alors évidemment, on a commencé par le caviar avec la première victoire de Julien Alaphilippe à Landerneau, le maillot jaune. Et depuis, mais on a l'impression que c'est un petit hommage à la bonne du curé de Annie Cordy. Ils voudraient bien, mais ils peuvent point. On a l'impression que certains courent un petit peu à contre-courant. Je pense parfois des fois à Julien Alaphilippe, même à Guillaume Martin, parce que sa deuxième place, soyons honnêtes, c'était un trompe-l'œil. Oui. Ça lui a même pas rendu service et lui-même le reconnaît qu'il est entre deux.
Donc une étape.
Mais oui, on est pris une étape pour rehausser un petit peu. Alors oui, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver n'importe quand, mais ça peut surtout jamais arriver. Donc la base du cyclisme français a beaucoup plus de mal désormais. Les prodiges, les meilleurs, ils sont étrangers. L'arbre Julien Alaphilippe cache une forêt un petit peu désertique. Ouais. Mais bon, rappelons que demain, c'est le 14 juillet.
Ah.
C'est tellement symbolique pour nous, messieurs les Français, brillez les derniers.
Vous êtes en forme, Christophe Bérard. On voit que vous avez profité de votre journée de repos hier. Merci à vous et à demain.
Tour de France 2021.
RTL, chez vous.
Christophe Pacaud.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Pas de la case. Départ pour 169 km du pas de la case. C'est incroyable. Une descente pour démarrer.
Oui, c'est pas banal. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des débuts de course toujours très animés. Alors souvent parce qu'il y a une côte dans les premiers kilomètres où une perspective d'échappée est bien réelle et les coureurs en profitent pour se glisser dans le coup du jour. Mais aujourd'hui, c'est un départ en descente. Alors les organisateurs ont pris le soin quand même de faire la moitié de la descente neutralisée à partir des hautes altitudes à 2400 mètres du port d'Ambalira jusqu'à l'altitude de 1134 mètres à la sortie du pas de la case. Là, Christian Prudhomme libérera les coureurs de ce tour dans une descente, longue descente jusqu'à Tarascon sur Ariège. Ça va rouler fort.
On en va du gros, c'est ça Laurent Jalabert?
Oui, et puis c'est surtout bon pour le moral. Après une journée repos, on va regarder le compteur, ça va rouler à 65, 70, 80 de moyenne. Ça va faire du bien, mais ça va pas durer longtemps parce que derrière, le premier col arrive déjà au kilomètre 43, ça va grimper.
Arrivé à Saint-Gaudens tout à l'heure et on refera l'étape du tour, l'étape du jour avec vous Laurent Jalabert dans votre club Jalabert de
18h30 à 19h.
À tout à l'heure Laurent.
Tout à l'heure.
Christophe Pacaud,
RTL, chez vous.
L'histoire du tour, comme tous les jours, avec l'inimitable Christian Laborde.
RTL.
Vélo va, vélo vole.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Le Tour de France quitte Andorre, retrouve l'Occitanie et Saint-Gaudens, qui a vu gagner dans ses murs Gino Bartali, Charlie Gaulle ou André Darrigade. Saint-Gaudens se souvient surtout de Luis Ocaña, fils d'un républicain espagnol réfugié en France, dont la presse ibérique fait peu de cas. Lors du Tour de France 1970, Luis Ocaña subit une panne de jambe dans les Alpes et songe à abandonner. Soutenu par son équipier Charlie Grosskost, il continue, se refait la cerise et lors de l'étape Toulouse-Saint-Gaudens, attaque à 48 bornes de l'arrivée en compagnie de Walter Gottfroth, d'Andrés Gandarias et d'Evert Dolman. La tentative échoue. Le groupe maillot jaune revient. Luis repart de nouveau à l'attaque, seul cette fois, avec son œil noir, son maillot orange et ses soquettes blanches qui valsent. Dans la côte de Monsonès, à 24 km de l'arrivée, il a 1 minute 25 secondes d'avance sur les coureurs de la Salvarani et de la casse qui mènent la chasse. Ils ne le rejoindront pas. Et à Saint-Gaudens, Luis remporte son premier bouquet sur le Tour. Saint-Gaudens, c'est Luis. Luis Ocaña.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Bonne route, la course toutes les demi-heures avec Christian Olivier et Morad Jabari sur la moto pilotée par Jérôme Caver. Plus que jamais, hasta siempre, vous êtes bien sur RTL.
RTL Midi.
La météo donc, Peggy Broche, automnale.
Oui, pour un été, en effet. Tant au niveau ciel que température, Christelle. Alors,
ah oui, c'est frais,
hein. Oui, je vais commencer par les températures, justement. 14 degrés cet après-midi, vous avez bien entendu, à Aurillac. 16 à Tarbes, 18 à Nancy, 20 à Brest, ainsi qu'à Lille, à Paris, à Lyon, à Toulouse. C'est très juste, hein. 21 à Tours, 22 à Nantes, 25 à Perpignan, 26 à Marseille, 30 à Nice. C'est vrai que c'est toujours mieux près de la Méditerranée. Alors, côté ciel, je rappelle qu'il y a 3 départements qui sont toujours en vigilance orange, pluie, inondation. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le territoire de Belfort. Attention aux forts cumuls de pluie qui vont concerner une vaste zone entre les frontières du Nord, la région parisienne, le centre, en allant vers le sud-ouest. Des pluies fréquentes, localement soutenues, voire orageuses. Et puis entre les Pyrénées et les régions du centre-est, là le temps reste gris avec des averses. Seule région au sec finalement, près de la Méditerranée, mais au prix d'un vent fort, hein, ça peut souffler jusqu'à 90 km/h comme sur la Corse. Ça souffle aussi sur les Pyrénées, sur la façade atlantique et le ciel sera plus lumineux également entre la Bretagne et les côtes de la Manche.
Et demain, encore des trompes d'eau dans l'est.
Oui, avec des... c'est ça, des pluies soutenues dans le Grand Est toute la journée, des pluies en continu en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes le matin qui vont régresser vers la Franche-Comté en remontant vers le nord l'après-midi. Ailleurs, un ciel souvent gris surtout le matin, quelques averses et puis un temps plus sec entre la Bretagne, la Normandie avec le retour d'éclaircies au fil des heures. Pareil près de la Méditerranée, mais encore pas mal de vent, tout ça sous des températures en hausse à l'ouest, mais non, toujours fraîches. Si bon, faut pas non plus
fantasme
voilà,
pas
non plus 17 à Nancy, 20 à Lyon, 21 à Brest, 24 à Bordeaux, 28 à Montpellier.
Merci Peggy. Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
On va revenir évidemment sur ce nouveau tour de vis annoncé hier par Emmanuel Macron. Bonjour Elias.
Oui, bonjour.
Alors qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Ah bah, complètement contre.
Complètement contre.
Ah oui, oui, hors de question que je me fasse vacciner malgré tout ça.
Eh ben, on va y revenir dans une petite minute après le rappel des titres. 4 à 5 000 rendez-vous par minute pour se faire vacciner. Une déferlante sur les sites de réservation depuis l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. À partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de culture, de loisirs, cinéma, parc d'attractions. Début août, nouvelle extension aux transports, bars, restaurants. Il faudra donc être vacciné, avoir eu le Covid ou présenter un test PCR négatif. Quant aux soignants, ils auront l'obligation d'être vacciné, sinon il y aura des sanctions à partir du 15 septembre qui pourront aller jusqu'au licenciement. Les textes de loi seront présentés en Conseil des ministres au début de la semaine prochaine et au Parlement le 21 juillet. Le télétravail dans la fonction publique, les 9 syndicats ont signé un accord cadre. À partir du 1er septembre, les agents pourront télétravailler 3 jours par semaine maximum. L'accord prévoit aussi une indemnisation forfaitaire des frais de télétravail à hauteur de 220 € annuels maximum. L'allocution d'Emmanuel Macron a été suivie par plus de 22 400 000 téléspectateurs. Il a aussi évoqué l'avenir. La réforme contestée de l'assurance chômage sera mise en œuvre le 1er octobre au grand dam des syndicats. Quant à la réforme des retraites, elle est nécessaire mais devra attendre, je cite, que l'épidémie soit sous contrôle.
Et les petites histoires olympiques ? Jean-Michel Rascol sur RTL.
Et chaque jour dans RTL Midi, tout cet été, nous vous racontons une histoire des Jeux. Souvenez-vous, en 1972, le nageur américain Mark Spitz devient la star des JO de Munich avec une valise de médailles d'or et de records du monde. Le Californien porte une fringante moustache, soigne son look et suscite bien des interrogations, Jean-Michel Rascol.
Le nageur incarne à lui seul les Jeux de Munich. 7 médailles d'or, 7 records du monde. Mais Mark Spitz, c'est une moustache, attribut pileux qui fait du Californien le playboy du bassin. Le Français Michel Rousseau, vice-champion du monde du 100 mètres nage libre, se souvient.
Mark est arrivé avec cette moustache. C'était presque un peu se moquer des autres en disant « Vous allez voir, mais moi je fais ce que je veux. » Et Marc, grâce à ça, passait des gros contrats avec des firmes de rasoirs, avec d'autres firmes encore, des produits cosmétiques pour les hommes. Ça a renforcé en plus ça, sa légende des 7 médailles. C'est le premier nageur qui a été vendu d'une façon très médiatique.
Question d'un journaliste, quel est votre secret ? Ma moustache, répond Spitz. Grâce à elle, l'eau ne fait qu'effleurer mon visage. Résultat, l'année suivante, aux Mondiaux de Budapest.
Pratiquement 50% des nageurs, même je me rappelle Roland Mathès, qui était le grand nageur de dos, tout le monde était avec une moustache. Pratiquement, j'avais mis une moustache aussi parce que je trouvais que c'était sympa. C'est un peu comme aujourd'hui les gens qui mettent la barbe et la moustache, qui gardent tout ça parce qu'ils considèrent que ça fait partie de la culture.
Une simple plaisanterie au retentissement planétaire.
Oui, vraisemblablement, c'était une boutade et il a dû répondre sur le coup que tout ce qui lui passait par la tête. Mais est-ce que la marque de rasoir n'aurait pas concocté avec lui une stratégie pour que son image soit associée à la moustache ? Ça, j'aurais pu lui poser la question à Marc.
Car Michel Rousseau a revu Mark Spitz récemment à Paris. Il était d'ailleurs un peu frileux à l'idée de revoir cette légende, désormais sans moustache.
J'étais président de l'association des sprinteurs après les grandes compétitions et j'associais jamais Marc avec nous. Parce que c'était pas un rigolo, il picolait pas, il parlait que de lui-même, et c'était pas chouette. Ma femme m'a dit, mince, tu vas pas quand même me priver de voir un jour une légende. Et quand on y a été, j'étais très surpris. Le garçon était devenu beaucoup plus philosophe, beaucoup plus profond dans sa pensée. Il parlait pas que de lui, il avait parlé de l'amitié qui nous liait, mais alors qu'on était en petit comité, il avait pas besoin de briller devant la foule.
Il avait une belle vague, Mark Spitz, lorsqu'on nageait à côté de lui.
Il avait des beaux pieds, je pense toujours. J'ai dit, Mark Spitz, oh, j'ai bien connu. D'ailleurs, je connaissais principalement ses pieds dans le retour du 100 mètres nage libre.
The last swimming event in the Olympic program has Mark Spitz of the United States going for his 7th gold medal of these games in the men's medley relay. It's another world record for the Americans, 348.
Merci Jean-Michel Rascol avec le talent de la mise en onde de Spencer Clairefeuille. Merci messieurs.